Hello, c'est Edwige Adrienne et Emmanuel de l'équipe Fort Éclair, le podcast des jeunes IHEDN.
Nous ne sommes ni journalistes ni ingénieurs du son, mais notre objectif est de vous faire découvrir les dessous du monde de la défense et de la sécurité à travers des rencontres, des portraits et des témoignages inédits.
Les membres des jeunes IHEDN prennent le micro et sillonnent l'Europe pour interviewer les acteurs de ce monde, civil ou militaire. Ils nous confient leur parcours, leur mission, partagent leurs réflexions, anecdotes et leurs difficultés. Évidemment, chaque parcours est unique, alors inspirez-vous.
Votre épisode commence maintenant.
Bonne écoute sur Fort Éclair.
Le 24 février 2022 a marqué un changement d'époque dans l'histoire du vieux continent. Ce jour-là, la Russie débutait sa campagne militaire en Ukraine. Très vite, les gouvernements ont dénoncé cette invasion dans d'éloquents discours. Pourtant, c'est celui d'Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui a le plus marqué les esprits.
Voit que nous avons affaire à un changement d'époque. Et ça signifie que le monde d'après ne sera plus le même.
Ce discours, les Allemands l'ont nommé le Zeitenwende Speech, le discours du grand basculement. Cela fait plus d'un an qu'il a eu lieu et nous parlons aujourd'hui de ses conséquences. Pour ce faire, l'invité du jour est Gaspard Schnitzler, chercheur sur les questions de défense à l'IRIS et co-directeur de l'Observatoire de l'Allemagne.
La guerre en Ukraine, c'est un bouleversement pour le modèle allemand pour plusieurs raisons. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, le modèle allemand il reposait, on peut le dire, sur trois axes. Premier axe, c'était un approvisionnement en hydrocarbures pas cher grâce au gaz russe, avec une dépendance à 60% des importations de gaz russe. Le deuxième pilier, c'est des liens économiques étroits avec la Chine, qui reste le premier partenaire économique de l'Allemagne. Et enfin, un troisième pilier qui est une politique de retenue sur le plan militaire. La politique de la retenue militaire allemande, elle existe depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle est étroitement liée à l'histoire de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. La dépendance à la Chine, je dirais qu'elle a au moins une vingtaine d'années. Et pour ce qui est du gaz russe, pareil, c'est post-guerre froide, c'est la politique de changement par le commerce allemand, donc le Wandel durch Handel, qui consistait à penser que si on entretenait des relations économiques étroites avec la Russie ou avec des régimes semi-autoritaires, ça pourrait contribuer à démocratiser ces pays. Dans la réalité, on peut constater que c'est un échec, parce que l'Allemagne a noué des liens étroits, que ce soit avec Nord Stream ou d'autres, avec la Russie, et ça n'a pas contribué pour autant à libéraliser le régime russe. Et d'ailleurs, c'est ce que les pays d'Europe centrale et orientale reprochent beaucoup à l'Allemagne, notamment le fait que Nord Stream 2 a été quand même lancé en 2017, de mémoire, soit trois ans après l'annexion de la Crimée, donc en connaissance de cause. Et on voit qu'aujourd'hui, au moins deux de ces trois piliers sont bouleversés par la situation géopolitique.
Face à cette nouvelle situation géopolitique, Olaf Scholz a réagi avec ce discours. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ?
Il a parlé justement de cette Zeitenwende, de ce tournant dans le temps, qui se matérialise par une prise de conscience des faiblesses du modèle allemand, et notamment des lacunes capacitaires de l'armée allemande après des années de sous-investissement. Pour donner quelques chiffres un peu parlants, l'Allemagne a dépensé en moyenne sur la dernière décennie, 2010-2020, 1,3% de son PIB en dépenses de défense, qui est bien en dessous de l'objectif des 2%. Pour donner un ordre de grandeur, la France, jusqu'à présent, se situait l'année dernière à environ 1,9% du PIB en dépenses de PIB. Après, évidemment, ça a relativisé dans la mesure où le PIB allemand est bien plus élevé et donc le budget de défense allemand est supérieur de 10 milliards au budget de défense français. Malgré tout, en termes de PIB, ça représente un chiffre bien, bien moins important. Un sous-investissement qui se matérialise par notamment un faible taux de disponibilité des équipements allemands, des lacunes capacitaires qui ont été dénoncées à plusieurs reprises dans des rapports, dans la presse outre-Rhin ces dernières années. Donc on a la prise de conscience des faiblesses de l'armée allemande et puis on a également la volonté de la réaffirmation du rôle de l'Allemagne sur le plan militaire, mais pas seulement, également sur le plan énergétique et économique.
Mais nos auditeurs aimeraient savoir, au-delà des paroles, quel est le changement réel en Allemagne qui découle de ce discours du basculement ?
Alors ce changement, il se traduit de différentes façons. Il a des implications, je dirais, à la fois sur le plan doctrinal. des implications sur le plan capacitaire et des implications sur le plan industriel. Plusieurs exemples. L'objectif d'avoir une armée moderne et crédible pour remplir les missions de l'OTAN, ça c'est un changement et à la fois c'est une continuité, mais en tout cas ça s'est accéléré du fait de la guerre en Ukraine. La réforme de la modernisation des procédures d'acquisition d'armement, donc comment accélérer les acquisitions, ça c'est une problématique qui se pose également en France avec l'économie de guerre, c'est quelque chose qui avait déjà été lancé avant l'invasion russe de l'Ukraine, mais qui s'est accéléré du fait de cette invasion, et donc ça a conduit notamment à l'adoption d'une loi sur l'accélération des acquisitions en juillet 2022, de mémoire, la fin de la retenue sur les livraisons d'armes à l'Ukraine, et enfin l'assouplissement des règles d'exportation. Traditionnellement, donc l'Allemagne est très stricte sur ses exportations. On a pu entendre le chancelier Scholz, mais également l'ancienne ministre de la Défense, Christine Lambrecht, dire que voilà, il fallait que l'Allemagne assouplisse ses règles de contrôle export pour pas qu'elle dissuade ses partenaires européens de coopérer avec elle, ce qui est assez nouveau dans le discours allemand. Après, on attend de voir comment ça se concrétisera dans la mesure où l'Allemagne est en train de préparer actuellement une nouvelle loi sur le contrôle des exportations qui devrait être adoptée prochainement. Donc on verra le contenu de cette loi. Ce tournant, il est quand même limité et on peut dire que le changement, il se laisse attendre. Dans les annonces phares, entre guillemets, du chancelier, il y avait la création d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour moderniser la Bundeswehr, qui a fait beaucoup de bruit. Également, l'engagement allemand de dépenser à l'avenir 2% du PIB pour sa défense, là où jusqu'à présent l'Allemagne s'était toujours opposée à respecter cet objectif qu'elle trouvait un petit peu arbitraire, donc 2% du PIB allemand, ça voudrait dire qu'on passerait d'un budget annuel de 50 milliards à environ 70 ou 80 milliards, ce qui est conséquent. Donc ces changements se laissent attendre. Parmi les critiques qu'on peut faire, pour l'instant il n'y a pas un euro de ce fonds spécial de 100 milliards d'euros qui a été dépensé, ce que dénoncent d'ailleurs les industriels allemands. Pourquoi est-ce que les réformes se laissent attendre? Ben, pour plusieurs raisons. Des divisions politiques au sein de la coalition, entre justement d'un côté les Verts, de l'autre côté le SPD, mais également les libéraux du FDP, que ce soit sur la livraison d'armes, on a déjà parlé, il y avait également la promesse de campagne de créer un conseil de sécurité nationale. Finalement, les Verts et le SPD n'ont pas réussi à se mettre d'accord parce que les Verts voulaient que ce soit rattaché au ministère des Affaires étrangères, les autres voulaient que ce soit rattaché à la chancellerie, et donc ils ont abandonné cette idée. Idem pour le projet d'adopter une nouvelle stratégie de sécurité. Ça a été lancé en mars 2022, ça devait être adopté avant la fin de l'année 2022. On est en mai 2023 et cette stratégie n'a toujours pas été adoptée, elle a été repoussée à plusieurs reprises pour des histoires de division politique interne. Enfin, on peut aussi s'interroger sur le caractère réfléchi et de long terme de cette nouvelle stratégie. Est-ce qu'il s'agit d'une vraie stratégie de long terme ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une réaction un peu précipitée de court terme pour annoncer quelque chose? Donc seul l'avenir pourra dire s'il y a ou non un véritable tournant dans la politique de défense et la politique étrangère allemande.
Et ce discours, justement, quel était le but pour Olaf Scholz de parler de ses investissements seulement 3 jours après le début de l'invasion de l'Ukraine?
Je pense que ce discours, il avait un double objectif. Il y avait un objectif tourné vers la population allemande, vers les élus allemands, enfin vraiment vers l'intérieur, de dire que ce nouveau gouvernement qui était aux manettes avait bien conscience de la gravité du moment et allait prendre les décisions nécessaires qui étaient attendues des autres pays pour faire face à cette crise, et notamment qu'il allait trancher avec cette politique, ces années de politique de sous-investissement dans l'armée allemande, dont on parlait tout à l'heure. Il y avait vraiment ce besoin aussi de rassurer la population qui se retrouve dans une situation très particulière, et puis du fait également de l'histoire allemande, l'Allemagne n'est pas non plus très, très à l'aise avec les questions de défense et sa population l'est pas non plus. On dit souvent de la part de la population allemande qu'il y a un désintérêt amical pour ses forces armées, ce qui résume assez bien pense, la situation. Et après, évidemment, ce discours, c'était également un discours vers l'extérieur, à destination des autres États membres de l'Union européenne, et sans doute également les États-Unis et d'autres États non européens, pour rassurer sur la prise de conscience allemande, sur la volonté de plus contribuer au partage du fardeau, et puis vis-à-vis des pays d'Europe centrale et orientale, également de faire oublier justement cette politique assez tolérante vis-à-vis de la Russie ces dernières années, en rassurant sur voilà, la prise de position allemande vis-à-vis, évidemment, en faveur de l'Ukraine, et qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Je dirais donc que c'est essentiellement ces deux raisons.
Alors, justement, de ces raisons que vous m'avez données, est-ce que, selon votre point de vue, on peut dire que ces objectifs ont été remplis ?
Je pense qu'ils l'ont été partiellement. Au niveau communication externe, ça a été extrêmement bien accueilli dans un premier temps, même par la France qui s'est félicitée que l'Allemagne prenne davantage ses responsabilités, investisse davantage dans sa défense. Après, la France a assez vite déchanté quand elle a vu les choix capacitaires allemands et le fait que la plupart de ces crédits supplémentaires étaient destinés finalement à l'acquisition d'équipements non européens, d'achats sur étagère, que ce soit d'avions, d'hélicoptères, ou autres équipements, notamment américains, israéliens. Et donc, ça ne contribue pas du tout à l'idée projet français de construire une autonomie stratégique européenne. Et est venu en second temps aussi la crainte d'une certaine rivalité avec la volonté allemande de devenir la première armée conventionnelle en Europe. Et donc, cette réaction un peu paradoxale côté français, qui depuis des années demandait plus de prise de responsabilité allemande, qui finalement a peut-être peur de cette Allemagne qui veut en faire davantage sur les questions de défense, là où traditionnellement c'était la France qui était vraiment l'acteur influent sur ces sujets-là. Et donc, il y a aussi une sorte de réorganisation des équilibres en Europe. On peut ajouter à cela, alors il y a eu un autre discours de Scholz hein, en août 2022 à l'université Charles de Prague. C'était un discours plus sur l'Europe, sur le projet européen de Scholz, où il a parlé de ce centre de basculement du centre de gravité de l'Europe vers l'Est avec les élargissements à venir, d'une Europe à 30 ou à 36 avec les Balkans, potentiellement un jour avec la Géorgie, avec l'Ukraine. Et se pose la question de la place de la France également dans une Europe élargie, du leadership français dans une Europe élargie, là où les Allemands, traditionnellement, entretiennent quand même des relations beaucoup plus étroites avec ces pays, ne serait-ce que parce que c'est leur arrière-pays, entre guillemets, si je peux me permettre, qu'ils entretiennent des relations économiques importantes avec ces pays dans lesquels il y a énormément d'entreprises allemandes qui sont implantées, etc.
Vous avez parlé de communication extérieure. Est-ce que, justement, les pays d'Europe jugent positivement cette évolution de l'Allemagne sur les questions de défense ?
Je pense que dans l'ensemble, il y a une attente des pays, notamment des pays d'Europe centrale et orientale, et je pense que ça a un caractère rassurant, et je ne pense pas qu'ils le voient nécessairement comme un compétiteur, mais parce que déjà, ce n'est pas forcément des pays qui disposent d'une industrie de l'armement, et je pense qu'ils prennent cette prise de responsabilité allemande, qu'ils l'accueillent plutôt positivement. Après, ils ont été aussi, on peut dire, assez durs hein, vis-à-vis de l'Allemagne. Il y a eu une pression importante, on se souvient, pour la livraison des chars Léopard. Voilà, de dire maintenant, ça suffit, ça fait des années que vous ne prenez pas vos responsabilités sur la question de défense, que vous ne participez pas à l'effort collectif de défense, vous faites le minimum syndical, entre guillemets, en termes d'opérations, etc. Et donc là, on met l'Allemagne face à ses responsabilités, et on a demandé à l'Allemagne d'en faire presque plus que les autres pour un petit peu... voilà, passer l'éponge sur ces dernières décennies.
Alors justement, ces investissements, pour compenser, vont-ils se révéler efficaces dans un avenir proche ou cela va-t-il mettre du temps avant qu'il n'ait un effet bénéfique ?
Ben, je pense que oui, ces investissements, ils vont prendre du temps avant de faire leurs effets parce que l'armée allemande a de telles lacunes capacitaires que évidemment ça ne va pas se résorber du jour au lendemain. Donc déjà, ça peut rassurer tous ceux qui craignent que l'Allemagne va devenir la première puissance conventionnelle en Europe rapidement. Ce ne sera pas le cas parce qu'elle part de loin. Les investissements, ils vont prendre un peu de temps à se mettre en place. Alors, il y en a certains qui ont déjà été réalisés. Maintenant, les lacunes, elles se sont également creusées avec les cessions d'équipements à l'Ukraine. Donc, il y a un certain nombre d'équipements qu'il va falloir remplacer. Et après, ce qui est intéressant aussi, je pense, et qu'on n'a pas encore abordé, c'est le changement de doctrine allemande. C'est-à-dire que là où l'Allemagne, pendant toute la guerre froide, avait une doctrine qui était vraiment centrée sur la défense du territoire, la défense du continent européen face à une potentielle invasion de l'Union soviétique, donc avec un modèle d'armée, une composante blindée terrestre très importante pour pouvoir arrêter en première ligne une invasion russe. On a eu un premier tournant avec la guerre en Afghanistan. Il faut savoir que les Allemands étaient très engagés en Afghanistan, c'était le deuxième contingent après les Américains, et donc à partir des années 2009-2010, les Allemands ont un petit peu modifié leur modèle d'armée vers un modèle plus expéditionnaire, peut-être plus proche du modèle français, avec des équipements moins lourds pour pouvoir se projeter, faire des opérations extérieures. Et là aujourd'hui, on a un retour en arrière, on revient vraiment à cette doctrine qui est un peu le fondement de la doctrine allemande post-Seconde Guerre mondiale. Un retour vers la défense du territoire, vers la haute intensité, hein, ce que défend aussi la France depuis un certain nombre d'années, et avec donc des investissements qui vont se concentrer sur les capacités qui sont liées, donc que ce soit les blindés, la défense solaire.
Est-ce que je peux vous demander, avec votre expertise dans les questions de défense, de porter un jugement sur ce discours et surtout sur ces décisions qui en découlent ?
C'est une question difficile. Je pense que c'est plutôt positif, les développements qu'on voit en Allemagne, enfin, cette volonté de prendre ses responsabilités, de ne pas considérer la défense comme quelque chose de tabou et de vouloir s'investir davantage, c'est quelque chose qu'il faudrait plutôt encourager. Maintenant, dans les choix qui sont faits, notamment capacitaires, évidemment, en tant que Français, voilà, j'ai du mal à comprendre ces choix. Pourquoi est-ce que les Allemands achètent en priorité étrangers, même si évidemment d'un point de vue purement pragmatique, on peut comprendre, hein, l'argument des Allemands, c'est de dire, voilà, nous, la menace elle est imminente, on a des lacunes capacitaires importantes qu'il faut combler, on ne peut pas se permettre d'attendre des développements ou des achats qui vont prendre du temps à être livrés, donc on achète ce qui est disponible immédiatement sur le marché, et évidemment les plus grands volumes de production, c'est les Américains, et donc on va acheter américain. Mais c'est un argument qui tient qu'à moitié, parce que déjà les Américains ont également des difficultés à livrer dans les temps leur équipement, parce qu'il y a énormément de commandes, et puis c'est une vision assez court-termiste, dans la mesure où les programmes d'armement, c'est des programmes qui durent plusieurs décennies, hein, c'est des investissements pour les 30-40 prochaines années, et donc ça fait autant de crédits qui ne pourront pas être utilisés pour des programmes en coopération, comme le SCAF, donc l'avion de combat du futur, le MGCS, le char de combat du futur, donc des projets franco-allemands qui avancent peu. Et donc à ce niveau-là, on peut évidemment qu'être déçu. Et après, il y a un élément aussi que je trouve intéressant, c'est qu'on a tendance en France à un peu surinterpréter la stratégie, les velléités allemandes, là où finalement, quand on parle avec des interlocuteurs allemands, on se rend compte que il y a une absence de vision stratégique sur un certain nombre de sujets et des décisions qui sont plus le fruit du hasard ou d'un tâtonnement que d'une véritable stratégie avec des velléités derrière. Et voilà, ça c'est peut-être quelque chose de difficile à comprendre. Hein. En France, un pays qui voilà, dispose d'une vraie, par exemple, politique industrielle de défense, ce n'est pas du tout le cas en Allemagne. Les entreprises de défense sont avant tout perçues comme des acteurs économiques qui sont guidés par des intérêts capitalistiques. C'est en train de changer doucement. Mais il n'y a pas de mesure d'économie de guerre comme ça peut être le cas en France ou comme ça a été annoncé en France. Et il n'y a pas encore de stratégie véritable de la part du gouvernement vis-à-vis de ces industriels. Donc voilà, peut-être relativiser parfois les ambitions allemandes et la menace que peuvent représenter ces ambitions. Et après, sur la coopération franco-allemande, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, se concentrer sur ce qui fonctionne, éviter d'avoir des projets peut-être trop ambitieux, être prêt à faire des concessions, voilà, reconnaître là où les Allemands disposent d'un vrai avantage compétitif ou d'une vraie expertise et peut-être accepter voilà, sur le terrestre, sur le MGCS, de laisser un leadership allemand, et là où nous, sur le SCAF, on a le leadership français, et voilà, se parler et essayer d'éviter de renouveler les erreurs du passé. Et puis voilà, avancer unis et pas divisés, parce qu'en fait à chaque fois qu'on est divisé, on est affaibli vis-à-vis de l'extérieur, et c'est ça se fait toujours au profit d'acteurs tiers qui bénéficient de ces divisions.
Merci encore Gaspard Schnitzler pour votre expertise lors de cette interview, et merci à vous chers auditeurs d'être restés avec nous pour en découvrir toujours un peu plus sur l'Europe de la défense. C'est tout pour moi et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Forêt Claire.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Forêt Claire jusqu'au bout. D'ailleurs, quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre.
Vous pouvez vous abonner pour être notifié de la sortie du prochain épisode, mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu, et surtout, partagez-le autour de vous.
On vous donne rendez-vous dans 15 jours. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les précédents épisodes de Forêt Claire.